Peut-être la note la plus significative quand on est rentré la première fois dans la bande de Gaza au mois de janvier, c'était l'état de sidération et de peur. Je sais de la part de témoins sur place, il y a eu un phénomène assez incroyable que plusieurs enfants et adolescents sont morts d'attaques du cœur simplement à cause du phénomène de la peur. Entendant les bruits des avions, ayant encore dans les yeux les images de ce qu'ils venaient de voir des attaques précédentes, tombaient de peur, sans avoir été touchés par aucun impact meurtrier de balles ou d'explosifs. Les enfants sont dans un tel état de sidération par la peur, sont incapables d'entendre le moindre cours ou le moindre enseignement. Par contre, il faut qu'on leur apprenne tout de suite à se distraire, à jouer, à reconquérir une certaine joie, une grandeur d'enfants. Et nous avons assisté à un spectacle un peu effrayant pour nous qui venions de l'extérieur, c'est que les enfants dans la cour de récréation étaient effectivement en train de jouer avec des pots de couleurs, de peinture, à se grimer, à se peindre le visage les uns des autres. Mais vous aviez les enfants qui se peignaient des nez rouges de clown, mais les yeux des enfants et les visages étaient d'une tristesse et d'une figé et sans expression, et le contraste était d'autant plus douloureux à constater.
Quels étaient les principaux besoins de la population
Alors les besoins sont énormes. Bon, il y a des besoins d'eau, comme tous ces pays-là souffrent, même si ce sont des pays qui longent la mer. Des besoins de gaz naturel pour pouvoir faire la cuisine, des choses tout à fait toutes simples et fondamentales qu'on a besoin au quotidien. Heureusement, enfin je dis heureusement, mais que le marché noir fonctionne très bien et que les tunnels avec l'Égypte n'ont jamais cessé de leur activité, bien qu'ils étaient copieusement bombardés, ils sont suffisamment profonds pour continuer à fonctionner. Et même à l'époque où j'étais présent sur la bande de Gaza, on en construisait tous les jours de nouveaux. C'est fait d'une manière artisanale. Il y a un Égyptien d'un côté qui touche de grâce taxes pour laisser passer la marchandise, et un Palestinien de l'autre côté qui fait pareil. Mais, moyennant quoi, à un prix exorbitant, la population de Gaza ne manque pas, elle a les moyens de payer, de produits de première nécessité.
Lors de votre séjour à Gaza, vous avez rencontré aussi les chrétiens de l'unique paroisse de Gaza. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette rencontre avec les chrétiens de Gaza?
En fait, il y a trois lieux de rencontre. Le premier lieu de rencontre, c'est la paroisse de la Sainte Famille, qui est la paroisse catholique de Gaza. Le deuxième lieu, c'est les écoles. Donc, le Père Moussalem a fondé deux écoles de toutes religions confondues, avec un programme pédagogique, je crois, très très adapté à l'épanouissement des enfants. Ça, c'est le deuxième lieu. Le troisième lieu, qui est aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est la présence des sœurs de Mère Teresa, des missionnaires de la charité, qui habitent derrière l'église paroissiale et qui, elles, accueillent notamment les enfants handicapés et puis, bien sûr, comme toujours partout dans le monde, tous les pauvres qui en ont besoin. Il faut savoir qu'il y a aussi deux prêtres orthodoxes sur la bande de Gaza. Il y a à peu près 3500 chrétiens baptisés, mais la majorité sont orthodoxes.
Quel est l'état d'esprit général des chrétiens dans la bande de Gaza? Est-ce qu'il y a une solidarité entre chrétiens et musulmans? Est-ce que vous avez senti une espérance?
Vraiment, pour être tout à fait sincère, je crois que les chrétiens, comme toutes les minorités partout dans le monde, souffrent plus que les autres dans la bande de Gaza. Dans les états d'urgence et de très grandes crises, on s'aide entre amis. Quand vous faites partie de minorités, sauf si vous avez des amis extrêmement influents, vous êtes nécessairement moins aidés que les autres. Les chrétiens ont beaucoup plus de mal que les autres à trouver un emploi et beaucoup plus de mal que les autres, forcément, de se débrouiller. Par contre, du côté chrétien, il y a un vrai désir de manifester la charité du Christ à tout homme qui souffre. Et de fait, dans ces cadres-là, les musulmans et les chrétiens se côtoient et il y a de véritables amitiés, de véritables rencontres qui se font. Mais d'une manière générale, les chrétiens sur la bande de Gaza sont une minorité qui, comme toutes les minorités dans ce genre de situation, souffre plus que les autres.
Est-ce que se manifeste une certaine solidarité justement entre musulmans et chrétiens dans ces moments justement de crise ?
Cette solidarité se manifeste pas tellement au niveau de la distinction de l'appartenance religieuse, mais de la solidarité humaine. Je ne crois pas que ce soit en tant que musulmans qu'ils vont aider plus tel ou tel chrétien, mais c'est à cause de l'amitié, de la rencontre, de l'opportunité, l'homme qui aide son frère qui souffre. Peut-être aussi qu'il le fait au nom de Dieu, mais ce n'est pas tellement dans ce cadre religieux spécifiquement qu'ils le font.
Lors du troisième convoi pour la paix acheminé le 19 mars à Gaza, vous étiez aux côtés d'un imam français, d'un imam belge et d'un rabbin français.
Oui.
Que vouliez-vous signifier tous ensemble ?
Alors en fait, on était extrêmement sensible au fait qu'il était urgent de donner un signe à Gaza et de par Gaza, par le relais des journalistes, à tous ceux qui pourraient recevoir ce signe, que les religions ne sont pas d'abord des facteurs de division et de lutte fratricide, mais qu'on pouvait témoigner ensemble, rabbins, imams et prêtres, que nous étions avant tout des serviteurs de la paix et que nous pouvions agir ensemble au service de la paix et de la solidarité par rapport aux victimes de nos conflits qui aussi évidemment ont des significations et des enjeux politiques et économiques, même si bien souvent on veut leur donner une note religieuse. Et nous voulions témoigner ensemble que, au nom de Dieu, nous sommes frères et que nous avons un devoir de solidarité. J'ai eu la chance de m'adresser à des étudiants sur la bande de Gaza et je suis parti de cette phrase de la Genèse que Dieu dit à Caïn, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et là, musulmans, juifs et chrétiens, nous pouvions ensemble réentendre cette question de Dieu à l'humanité. « Qu'as-tu fait de ton frère ?»